C'est parti. Donc, récit bref en mouvement, du métro au musée. Puisque le récit bref contemporain est hybridé aussi bien d'intertextes, de discours de sciences sociales que de fragments de Wikipédia, ma réflexion sera scandée de citations, façon de décliner un art du bref. Alors, je préviens que ces citations sont parfois extraites du corpus, et c'est un petit peu la forme brève dans le récit bref. Elles n'auront pas la densité légère du haïku, mais plutôt l'alerte du décalé ou de la formule. Ma réflexion porte sur le transit, sur la perception de ce savoir haut du fugitif, du vulnérable, peut-être de l'intime, dans les jeux d'écriture du dehors. Le choix du corpus de texte est donc de prime abord thématique, autour d'une cartographie du passage dans des lieux publics. Mais il est aussi dispositionnel par les opérations de montage qui caractérisent les récits. À mi-parcours, je quitterai le métro pour le musée, où le faire collection rappelle parfois le mode de constitution d'une bibliothèque. Plus que la charge politique pour sociographier ces lieux publics, partie politique émergée de l'iceberg, qui se donne comme survisible, l'intime, quoique lié au sociologique, en est la part plus liante encore pour le lecteur. Derrière la vue fragmentée, je vais m'employer à relever traces et cicatrices dans la banalité surexposée à dessin, qui offrent des plis intimes et investissent non des non-lieux, mais des lieux de mémoire, un petit palimpseste de mémoire, pour pasticher Baudelaire qui voyait dans le Louvre un grand palimpseste de mémoire. Mon désir est d'interroger un régime de lecture interactive sur un axe bipolaire entre fixation et mobilité, dans des pratiques, des combinaisons d'usages, auxquelles la forme brève semble des plus propices. Puisqu'on le sait, le texte bref est nomade, de magazine en anthologie ou en recueil. Je tenterai donc de cerner le capital mobilitaire activé par le récit. Bon, c'est pas très beau, capital mobilitaire, alors je suis preneuse de formulations moins pédantes et voilà. Bon. Ou pour le formuler en de simples questions, comment le récit bref, forme nomade qui le rend si disponible aux opérations de montage, met-il en mouvement? Que met-il en mouvement? Et comment lui-même est-il pris dans ce mouvement? Qu'il mette en question un cadre, le genre, qu'il explore et explose, je n'y reviendrai pas, ne conduisant pas ici une étude générique, mais une réflexion anthropologique sur le mouvement spatial et temporel, celui qui constitue une petite mémoire, dans l'air du temps. Je propose d'envisager une dynamique attentionnelle, vraiment d'être dans ce régime d'attention, opérante pour certains récits ici évoqués, devenus des dispositifs transmédia à renfort de son, d'images 3D et de réalité augmentée. Puisque une des demandes, c'était que s'intéresse aux nouvelles technologies, je le ferai pour les deux derniers récits évoqués dans le corpus. Voilà tout ce qu'on savait d'elle. Pierre le Pape à propos de la nouvelle. J'ai fait recueil imaginaire de 6 récits brefs. Métros instantanés de Laïs Bar, dont le sous-titre prend un titre de Rob Grier. L'enfant fossile de Philippe Forest. D'azur et d'acier de Lucien Suel. Journal du dehors d'Annie Ernaux. Ainsi que de 2 récits clôturant chacun un recueil. Alors il y a 3 sandwichs au Bourget, dans les caprices de la reine de Jean Echenoz. J'en souris déjà parce que c'est plein d'humour. Et à peu près apologue dans Histoire du pied et autres fantaisies de Jean-Marie Le Clézio. Ce recueil imaginaire dessine un regroupement thématique autour de l'archéologie et de ses enjeux de mémoire, de l'ordinaire du quotidien dans les lieux publics, entre trajets de métro et stations au musée. Je pose l'enjeu de ce qui est mobilisé dans une économicité spécifique du temps de la lecture, une mobilité d'abord purement mentale, qui concerne ensuite la posture du lecteur. La métrologie n'assigne pas un lieu sédentaire, elle offre une mise en relation. Donc le fil rouge, ça sera la mise en branle, et de ce corpus, je peux dire qu'il mixte des grandes maisons d'édition, comme vous voyez, mais aussi des maisons indépendantes plus petites, et j'y tenais, comme acte pas simplement militant, mais parce que ce sont ces 2 petites maisons d'édition sur lesquelles je m'attarderai à la fin, qui travaille sur la commande, sur le principe de la commande, et intègre du multimédia. Vous voyez qu'il y a aussi femmes, puis hommes, j'irai dans cet ordre-là, mais ils sont tous francophones contemporains. Le format, c'est de 1 page et demie à 15 pages, à 80 pages, Il y a un seul, donc de plus court au plus long, qui fait 140. Le moyen de communication, c'est d'abord le métro et après, ça sera le QR code et le numérique. Et les dates de tout ce corpus, l'œuvre la plus ancienne, c'est Annie Ernaux, 1993, et les autres sont 2007, 2010, 2011 et 2014. Et les deux œuvres dont je parlerai le moins sont Le Clésio à Annie Ernaux, mais qui font partie de mon chemin, alors j'ai du mal à m'en détacher. Voilà. La morphologie de la nouvelle, pensée en termes d'espace, temps, action, personnage, par Daniel Grozhnovski, qui suppose de distinguer espace référentiel, telle station de métro, donc elles sont parfois citées, distinguer l'espace fonctionnel, le lieu d'action, et l'espace signifiant pour le lecteur, s'attarde sur le temps de lecture. Alors, je vais rappeler une banalité, mais moi je m'appuie beaucoup sur cette idée du temps de lecture rapide. Je cite, « Les magazines populaires américains indiquaient au début d'une nouvelle le temps nécessaire à sa lecture, par exemple 28 minutes et 30 secondes. » Je l'ignorais. Lire s'effectue souvent en posture assise ou debout dans le métro, dans cet espace réduit à l'inverse du développement de l'imaginaire de la lecture et de l'espace virtuel développé grâce aux prothèses numériques. Lire offre le temps maîtrisable, la durée de la lecture que l'on peut estimer par habitude. Le « at one sitting » d'Edgar Poe devient un « at one standing » ou « walking ». Paradoxe de lire d'un trait ces récits disruptifs montés par rupture. Pour quatre des récits de mon corpus, je mesure en minutes les textes brefs écrits dans et sur le métro au regard de l'ordinaire urbain. Une minute et demie, entre deux stations, selon Georges Perec ou Laurent Génie. Le temps de lire une page de Lélia Sebar. Portrait esquissé, croquis d'une scène de métro parisien. Je cite « lieu souterrain et nomade », ce qu'elle écrit en quatrième de couverture, saisi de 1997 à 2006. Le paratexte nous indique « histoire furtive, éphémère, qui raconte 2 minutes 35 de bonheur ou de malheur. Promesse de narrativité et de speed reading. À suivre ces stations sur diverses lignes de métro, la lecture se translinéarise, pour reprendre un mot de René Audet, et ce grâce d'une part, à un procédé comme la récurrence lexicale ou la thématique commune, et d'autre part, à un processus qui réside en la posture interprétative unificatrice du lecteur. Dès lors, pour reprendre des termes d'Audet, quel entretexte sémantique, c'est-à-dire quelle plus-value de sens que chaque texte ne peut générer à lui seul, se dégage dans Métro instantané. L'auteur elle-même souligne l'unité, dès son prologue, celui d'un, ce que moi j'ai appelé, un musée imaginaire qui prend vie. Je cite, « Je les regarde avec, en mémoire, l'œil mécanique des photographes orientalistes. » Donc c'est moi qui souligne, « en mémoire. » Et d'énumérer des détails saisis au visage, comme les boucles noires serrées d'une petite fille de l'Atlas marocain dans les salles claires du Louvre. Je vous rappelle qu'on est dans le métro. Et aussitôt de livrer la première scénette d'un homme qui se bande les pieds de gaze blanche et non de lin, comme les bandelettes pharaoniques, écrit-elle. Les récurrences thématiques, vêtures culturelles, objets signes comme la main de Fatma, l'hygiénisme en tout genre, la mendicité, la conversation, la polyglossie, la référence culturelle populaire, de la télé-réalité alors Loana, à la mode, Laetitia Casta citée pas moins de 3 fois, tout cela crée une continuité pourtant rompue par les blancs qui séparent chaque texte et les passages du quai à la rame. Cela tient toutefois ensemble, parce que le montage, sous le double angle tensionnel et relationnel, sensibilise aux relations comme aux tensions, voire à la tension comme relation et inversement, et parce que tous les détails signes tissent un réseau de sens. Donc là, je peux renvoyer aux travaux de Sylvain Santi et Jonathan de Genève. Alors je ferai aussi d'autres références, et c'est vraiment pas pour être cuistre, mais c'est parce que, comme le disait Pierre Etemstein hier soir, rendons à César ce qui est à César, ou à Césarine ce qui est à Césarine. Le métro me dépayse. Voilà ce que dit Jacques Le Goff, cité par Annie Ernaux, Citation dans la citation, là. Page 47 du journal du dehors. Et elle ajoute, les gens qui le prennent tous les jours seraient-ils dépaysés en se rendant au Collège de France ? On reconnaît sa façon de court-circuiter la fiction narrative et de ramener aux clivages sociaux. Quand bien même, selon René Audet toujours, une interprétation qui réticule est une lecture hypertextuelle, s'applique à toute littérature et ne caractérise guère spécifiquement le recueil, ce dernier, en tant qu'ouvrage polytextuel, décuple ses possibilités de réticulation. Ce qu'a bien pointé Leïla Sebar. Car les images d'Afrique ou d'Asie, écrit-elle, ont voyagé dans l'Empire au-delà des mers, leurs images vivent ici, dans le métro. Ne nous y trompons pas, le regard n'est pas celui d'un ethnologue, d'un Marc Auger sensible à la cartographie, aux lignes du plan de métro, à l'entrelac de leur parcours. Le récit assume un parti pris de perception visuelle et auditive, accentuant le caractère sociographique à force de détails, ce qui pose soit la question de l'unité du recueil versus le morcellement de ses scénettes, soit, ce qui me retient davantage, celle d'une entrelecture opérée par le butinage de ses instantanés. La ligne de métro n'empêche guère les bifurcations vers une géographie intérieure. Au contraire. Alors c'est ce qu'on peut constater aussi dans d'autres productions, il y en a beaucoup hein, sur le métro. Par exemple, dans le texte de Ludovic de Grotte qui fait de la Zambie, son fil d'Ariane sur la ligne 4 du métro parisien. Et puis il y a beaucoup d'investissements par l'art contemporain, mais j'y reviendrai à la fin. Voilà, vous trouvez aussi un texte qui s'appelle Ligne 11. Ligne 4, 6, 11 reviennent souvent, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Chez Rose en Vallon, Raconter la vie, vous avez le récit d'un chauffeur de rame de métro. Donc c'est aussi une production, je veux dire, sur le thème du métro qui ne décroît pas. Il serait temps de ne plus parler de non-lieu, mais de sur-lieu, à propos du métro qui concentre tant de visages juxtaposés de la société et d'appels à la mémoire. Un sur-lieu serait donc un lieu hyper chargé, vécu, réceptacle de stratigraphie. Non. Chez Annie Ernaux, même si les thèmes de la mendicité ou de l'usure, par exemple les mains desquamées par l'acide d'un Africain ou les scènes d'ivresse, donc si ces thèmes peuvent faire écho, ce qui la distingue de Leïla Sebar, c'est le changement permanent entre scènes dans le RER, sur le quai, et dans les espaces de la ville nouvelle, la manière de fixer les choses, et plus encore, la mise en abîme de ce à quoi elle se refuse par son ethnotexte, en analysant la manière de faire récit d'une passagère dans le RER qu'elle écoute. Façon impudique de raconter, exhibition du plaisir de la narration, ralentir le processus qui mène à la fin, augmenter le désir de l'auditoire. Tout récit fonctionne sur le mode de l'érotisme. Page 46. L'écriture brève, à la coupe et au montage, vient court-circuiter ce type de procédé dans Journal du Dehors. À l'orée d'un texte intitulé « Esthétique décadente et montage perceptif », Laurent Génie prend la ligne 6 et évoque la superposition perceptive ou les expériences perceptives dissociées entre l'image et les effets de chevauchement et faux raccords provoqués par le décalage entre le temps écoulé entre deux stations et la durée d'une chanson écoutée sur son MP3, qui est toujours un peu plus longue. Se référant au flâneur baudelairien, qui est un peu le lieu commun que je ne pouvais pas en éviter, sensible aux palimpsestes urbains, le théoricien est sensible à l'expérience disruptive et conclut « chevauchement, empiètement, superposition, forgé par deux siècles de vie urbaine et d'efforts d'intégration sensible, font désormais partie de l'équipement perceptif ordinaire de l'anthropose contemporain en route sur la ligne 6. » Échappant à l'abstraction des lignes et au passage parisien, les déplacements dans nos récits n'ont rien d'une errance. Si le 19e fut celui de l'écrivain flâneur benjaminien, le 21e devient celui de la locomotion du lecteur embarqué dans le métro, de la tension entre le passage de l'autre et l'immobilité sienne aussi. Alors chez Leïla Sebar, on a trois figures intégrées dans Métro instantané de cette attitude d'œil témoin, elle-même en écrivain, un écrivain public dont elle parle, et puis de nombreuses figures de lecteurs et lectrices, dont une lit Virginia Woolf, par exemple. Le récit ne garde d'un air baudelairien que la sensibilité au fugitif transitoire. Mais ici, la nette affirmation de l'œil photographique pour saisir l'instantané a pour conséquence que la série de punctum, dans l'entretexte, finit par faire studium. Leïla se barre, joue ainsi des clichés en tous sens. Alors je vais lire un passage. Juillet 2001. La motte piquée grenelle. Bain de mer. Sur le quai, un vieil homme du Sud gesticule devant une affiche qu'il n'a peut-être pas regardée. Laetitia Casta est assise sur un glaçon. Sur son dos nu, les marques blanches du maillot de bain, bretelles croisées, en bas des reins, le string, en travers, au feutre rouge, à vendre. Deux fleurs blanches de camélia et le cœur rouge ornent son chignon blond. L'affiche titre « Bain de mer ». Un homme gras, fatigué, appuie sa tête sur les reins de la jeune et fraîche Laetitia. Il fait très chaud. Alors, j'espère que ça vous donne envie de le lire. Elle adopte le point de vue du montage comme déconstruction, ainsi de l'affiche dont elle joue sur plusieurs plans. Elle met, c'est très habile, en avant le processus d'un remontage, non un collage surréaliste, mais une disposition au sens de Georges Didier Huberman. L'image est in abstentia, la publicité fait bien contre-champ à la scène, et elle donne un autre sens, c'est la relation entre les plans qui fait sens. Le procédé peut servir la dénonciation, comme cette autre affiche dans un autre extrait, d'un convertible, vous savez, c'est l'image du convertible, derrière un SDF. En même temps qu'elle joue du chevauchement, elle désigne clairement l'hybridation du régime du visible. Ainsi, son livre invite-t-il à porter un regard décalé sur l'espace iconique. Prélève-t-elle les répliques, comme Annie Ernaux le fait ? Je ne connais rien de la genèse de ce livre, mais qu'elle prélève ou non, ces moments d'oralité, ces phrases recueillies peut-être, je ne sais pas, le lecteur lit au lieu de la jointure qui échappe manifestement au personnage. Cette jointure se donne comme l'œuvre de l'écrivain, voire comme celle du lecteur. Là, ce sont les travaux d'Eric Engelmann sur la parole empruntée chez Sarraute qui m'ont un peu guidée. Ce qui font saillie, plutôt que joint, sont les précisions ainsi d'une date, le 17 octobre 1961. Lue ailleurs, à la sortie du RER, chez Annie Ernaux, un simple tag, une autre forme brève. Algérie, je t'aime. Raconter une histoire, c'est tarte. Annie Ernaux. À défaut de livrer une histoire, l'hybridation fragmentaire tend vers le poétique, à lire moins comme ethnographie, factographie, que comme une kalidographie, soit un mode de saisie contemporaine qui inclut le régime de visibilité, de superposition, de faux raccords dont nous venons de parler, mais qui diffracte aussi une réalité par le mouvement d'un kalidoscope. Alors, vous savez que les kalidoscopes, il faut les secouer pour faire bouger la lumière, mais ce ne sont jamais qu'une façon d'accommoder les mêmes choses. La nouvelle, à peu près à prologue, de Jean-Marie Leclésio, donne l'exemple d'un écrivain qu'on suppose assis dans le métro, qui ne serait plus un flâneur, mais un œil multipolaire qui joue. Mais qui joue vraiment au sens de play. Il n'y a pas du tout de game, de série de portraits, de règles, de contraintes. Prévu en début d'Histoire du pied et autres fantaisies, ce texte, déplacé en fin de recueil lors du montage éditorial, détonne du reste du recueil. Il n'active pas le mode de l'inter ou de la reconnaissance, comme par exemple ce que Claire Collin a démontré dans un de ses articles, comme par exemple Bonheur, publié dans ce recueil-là, qui appelle par résonance très forte un texte antérieur de Leclésio qui s'appelle Mondo. Ici, l'histoire est à la trappe. La kalidographie prend le pas pour pulvériser à son tour la nouvelle instant en une myriade d'éclats de visage. Elle est en cela au reflet d'une mutation épistémologique qu'a souligné Jean-Pierre Mouret. Alors, j'ai une petite pause bibliographique parce que c'est un collectif que Jean-Pierre Mouret a dirigé et vraiment, les textes sont très intéressants. Le livre s'appelle « Univers urbain, pratiques artistiques, art et villes contemporaines, rythme et flux », avec des articles en particulier de Fabien Gris, Jean-Noël Blanc et Norbert Hiller. Donc, que dit Jean-Pierre Mouret ? dans cette mutation épistémologique. Pas de surplomb de vision synthétique, mais une immersion qui permet seulement des trajets multiples fragmentés, séquences plus ou moins erratiques. Ce qui, de fait, éloigne des formes comme le paysage ou la cartographie, ainsi que des parcours méthodiques, pour préférer l'aléa, la rupture de rythme, ou la marche, par exemple, devenue un lieu commun de la littérature contemporaine, sauf à s'intéresser à la fin de notre communication à autre chose, ça sera la marche du lecteur. Puisque l'idée, c'est que on est assis, enfin vous allez rester assis, remarque toute la conférence, mais la communication. Mais bon, l'idée, c'est que après vous imaginez en train de marcher. Ou alors, il faut que je vous donne le livre et puis vous allez peut-être marcher. Bon. Dans à peu près Apologue, il est question d'un écrivain aventurier de l'aléa. Écrire, c'est comme le métro. Vous auriez jamais cru que c'était une phrase de Leclésio, hein ? Non. Et la suite. Je veux parler des secousses, du rythme, des rencontres. L'écrivain n'est qu'une pièce de cet ensemble, une poussière de ce microcosme, pour faire bouger la mémoire plus grande que les humains. Seconde stratégie pour se délivrer de l'histoire, dans « Trois sandwichs au Bourget » de Jean Echenoz. Croquer la banalité conduit à une réflexion plus grinçante sur des traces mémoriales plus que mémorielles d'une ville-musée. Suivant les codes d'une quête initiatique qu'il applique au projet d'un senior prenant le RER direction le Bourget pour manger, bien compris, un sandwich, saucisson beurre peut-être, dans un bar face à la gare, Jean Echenoz, avec une douce ironie, déconstruit la possibilité d'une intrigue qui s'annule dans sa répétition même, d'où le titre indiquant trois allers-retours. L'événement est la panne répétée d'un stylo que le narrateur se gratifie de savoir réparer. Notant la pauvreté du territoire urbain, cinéma muret, usine en ruine. Bon, je suis désolée, mais le tableau ne va pas s'arranger du tout au fil de ma communication. C'est un signe aussi contemporain d'avoir ces traces. Le senior aperçoit les deux fusées à l'entrée du musée. L'aéronautique, évidemment, le Bourget, mais remet à une autre fois sa visite. Au bon accueil, la commande du sandwich, à force de clichés de langue appliqués à un contexte banal, crée ses effets humoristiques. Donc je vais lire un passage. Comme je lui demandais, sans grand espoir, s'il y aurait par hasard moyen d'obtenir un sandwich au saucisson, je gardais, on le voit, une certaine suite dans les idées. Ma surprise n'a pas été mince de m'entendre aussitôt répondre « sec ou aïe ?» Déconcerté par une telle variété, j'ai perdu mes moyens et oublié du coup d'envisager l'hypothèse d'une option cornichon. Mais maintenant que j'y repense, je suis sûre que ça aurait marché. Plus loin, devant un cinéma défunt, il prélève les traces d'un passé révolu. Cette façade ne servait évidemment plus qu'à ce qu'on s'appuie sur elle en attendant le bus 152. Puis s'ensuit la chronique de ce cinéma, aussitôt suivie de la description d'une église des plus moches, étonnamment classée comme monument historique, où il décide de suivre un office lors de son troisième voyage, après avoir asséné une chronique au condensé de dates digne de Wikipédia. L'ironie va crescendo quand il précise qu'un bidonville se situe près d'une entreprise de valorisation des déchets. En creux du récit bref se profile le SDF que l'on peut penser, et l'on peut penser alors à ce que Bruno Blankmann dit concernant Echenoz, SDF comme sans domiciliation de fiction. Magnifique, hein ? Ouais. Vestiges d'aéronautique, de guerre, d'usine auxquelles s'ajoute le cimetière aux nombreuses tombes de soldats, ingénieusement située rue de l'égalité prolongée. La géographie du funéraire, dans cet art du bref, dessine un territoire rétif à la fiction, mais non au trait d'esprit. À l'humour. Heureusement. Les deux nouvelles de Leclésio et d'Echenoz ont ceci de commun, qu'elles ne figent pas. Refuser de figer les choses. maître du mouvement et donc de la contradiction. Voilà très exactement ma fonction d'artiste, Robin Orlin. Chorégraphe. Quittons le métro. Monotope fragmenté, ouvert, selon l'expression de Michel Vienne, dans son ouvrage de référence qu'on a cité hier. Pour le musée. Donc nous voici partis pour le musée, ce qui n'induit pas de passer de la mobilité à la momification-muséification, comme on pourrait le supposer. Avec Philippe Orest, le récit bref, L'enfant fossile, se fait archéographie d'un intime à la lumière d'un fossile. Ce livre est le premier d'une collection, et l'objet dont il parle, une molaire fossilisée. L'objet existe, hein. C'est la première pièce de collection qu'on peut voir à l'entrée de l'exposition permanente du Musée des Confluences de Lyon. L'effet collection de cette collection qui s'appelle « Récit d'objets » est un élément constitutif de l'objet littéraire, notamment chez les petites maisons d'édition. Une collection s'inscrit dans un contexte d'émergence intégrant l'importance de s'ancrer dans l'actualité médiatique et l'ouverture d'un musée. Les éditions Invenit, donc qui ont œuvré pour cette collection, et qui sont vraiment dans le format court, hein, parce que la collection précédente, Ekphrasis, c'est du format court. Et c'est toujours sur de la commande. Les éditions Invenit, anticipant sur les conditions de sa propre diffusion dans les musées, s'inscrivent dans une décennie précise de la muséographie avec retour des expositions façon cabinet de curiosité et figure de collectionneur. Alors que la muséification part trop générale momifie, un écrivain s'empare d'un objet de la collection du musée pour lui rendre son capital mobilitaire, son potentiel d'imaginaire et même de virtualité, autorisé par les nouvelles technologies. Alors je cite un tout petit extrait de Philippe Forest. Vous avez en tête ce fossile. Rien. Ou du moins, presque rien. Quelque chose qui tient dans le creux de la main et sur quoi elle peut presque se refermer. Quand je m'arrête, c'est vraiment changement de ligne, hein, chaque fois, parce que le texte a cette mise en page très particulière. Et on voit ça souvent dans les écrits de Philippe Forest, où il y a, notamment dans Le chat de Schrödinger, toutes ces séquences finies là. Bon. Rien. Ou du moins, presque rien. Quelque chose qui tient dans le creux de la main et sur quoi elle peut presque se refermer. C'est au début, hein, comme extrait. La molaire est celle d'un enfant de 5 ans. Bon, c'est, je ne vais pas vous redire le Homo sapiens. Enfin, voilà, ça a été un objet qui a fait l'objet, qui a été un objet d'étude, voilà, archéologique. Et Philippe Forest de raconter sa propre enfance à la recherche de fossiles et de cailloux. L'enfant fossile désigne le fait qu'on mémorise aussi les visages des amis d'enfance comme ils étaient à l'époque, les visages fixes. Puis, il écrit à nouveau sa propre expérience, comme vous le savez, matrice de son œuvre, de sa vie, la perte de sa fille décédée à 4 ans. Le récit se fonde sur ce manque et tient là sa blessure, Le récit se fonde sur ce manque et tient là sa blessure en son tissu même. Le souvenir fossile trouve son objet de cristallisation, puisque cette blessure est au cœur d'une de nombre des livres de Philippe Forest. Dans ce texte, l'enfant tient la place de 3 pages, avec l'empreinte de la main faite dans le plâtre à l'école, puis une reproduction d'empreintes pariétales vues ensemble, la fille et le père. Une main d'enfant. Je cite, « adressant un signe, non pas au passé, à tout jamais perdu, d'une obscure origine, mais en direction de l'inconnaissable avenir, toujours recommencé du temps. » L'image du négatif, empreinte fossile, atténue l'horreur du réel. Alors, par téléchargement, le lecteur va faire apparaître la molaire en image 3D, qu'il peut manipuler. Donc, je vous montrais ça, mais avant, vous voyez, il y a l'effet collection. Les 4 premiers, vous voyez bien que l'enfant fossile, c'est le premier qui a été publié. Et vous voyez que la couverture semble ne rien avoir, avec ce vert assez éblouissant, fluorescent. Et quand vous l'ouvrez, vous avez l'objet en question. Et vous allez pouvoir flasher avec le QR code. Mais l'objet, vous voyez bien, n'est pas imposé à la couverture, ce qui va se retrouver dans les autres de la collection, puisque le châle, c'est avec les cheveux, Telescopa, c'est une météorite, et puis S63, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était les téléphones gris, enfin, vous voyez, où, avec un cadran, voilà. Et tous ces objets sont au musée des Confluences de Lyon. Alors, voilà un fossile en mouvement. Fossile en mouvement, c'est une citation de. Enfin, citation, c'est un emprunt à Freud. Non. Manière commune de représenter un symptôme, de l'archéologie du sujet à l'expérience d'autre chose que la mélancolie, très présente dans les autres livres de Philippe Forest. Le livre enrichi permet un mouvement chez le sujet, comme un self qui accepte la réalité. Le récit bref offre une expérience de sujet en jeu, l'exploration entre deux espaces. Le livre, comme espace transitionnel, investit une réalité dans le quotidien pour que puisse s'y instaurer ce soi. L'enjeu ne relève pas du gadget, de l'ajout d'une appli téléchargeable. Je trouve que c'est très fin avec cette histoire, cet objet-là. Le dispositif est la métaphore même de la mise en mouvement d'un fossile dans l'archéologie intime de Philippe Forest. Un rien, un reste, une relique dans un musée reliquaire. Tous ces mots viennent du texte de Philippe Forest. Et même, je cite, un monument miniature dont l'appli 3D sera la partie et la parfaite expression oxymorique à son tour, multipliant la présence absente. Le paysage d'enfance a beau ne pas être urbain, la métaphore de la ruine est aussi présente que chez Jean Esnoz, vestige, épave. Tour de force pour Philippe Forest, qui pense, il l'a écrit à maintes reprises, que les mots sont avant la chose, ce que détrompe hein, cette molaire, parce que c'est bien une image dans la vitrine, à la part, mais ce que confirme le livre, puisque le texte vient bien avant l'image 3D. Et donc, bon. Ce qui reste d'un roman. Citation de Philippe Forest, de ce livre-là. Si l'on se fie aux apparences, Philippe Forest publie des romans hybridés, d'essais. Pourtant, tous les enfants sauf un commencent par le récit bref, épuré de mélancolie, de la page 11 à 26, format court, qui condense les événements de la maladie et mort de Pauline, sa fille, sans vouloir, je cite ce qu'il écrit dans Toute la nuit, sans vouloir prendre au piège du récit. Le roman ne se développe pas depuis une matrice. Le récit est ce qui reste, le résidu, le fossile. La brièveté tient de la coupe. L'épure commence d'ailleurs dès le titre. Citation écourtée de James Barry. Tous les enfants sauf un grandissent. Bon, là, on est très loin de Peter Pan, c'est tous les enfants sauf un. La puissance imageante tient aussi simplement à l'image. Bon, en aparté, je voudrais dire, ça va avoir l'air d'être complètement hors sujet, mais en même temps, c'est un texte très émouvant, alors ça permet de coupler. La première fois qu'un mouvement d'opinion de grande ampleur adopte une devise forcément brève, comme tout slogan, issu de Twitter, comme l'a noté Louise Merzo, qui est une grande chercheuse des sciences de la communication, elle a été adossée à une image. C'est le 7 janvier 2015, à 12h52, quand est lancé le « Je suis Charlie ». Jachin Ronchin publie sur Twitter une image qu'il a réalisée en hommage à la rédaction de Charlie Hebdo. 4 millions se sont rassemblés autour d'une forme brève, forte, inscrite dans un espace iconique, logo, puisque c'est une écriture blanche sur un carré noir. Le slogan « forme brève », il y en a d'autres, hein, la chanson peut-être plus narrative, comme potentiel pour mobiliser, reprise collective populaire, en cœur possible, des formats courts. Ça ne peut pas fonctionner pour un roman. À mon avis. Fin de l'aparté. Mais ça a un lien quand même avec ce que je veux dire sur cette histoire de mouvement. Voilà. Le web relève le livre, il l'annule comme prisme et objet, l'exauce comme fable et fonction. C'est un tweet de François Bon. La collection chez Invenit ne suit pas ce principe d'une twitterature, car la dimension d'objet reste absolument primordiale pour l'éditeur Invenit. Ni livre numérique, c'est pas comme ça que ça s'appelle, ni simple liseuse analogon, vous savez, où la lecture est du même type puisqu'on fait défiler un texte, C'est ce qu'on appelle un livre enrichi, parce que dedans, il y a un entretien de Philippe Forest et donc cette appli 3D que vous pouvez télécharger. Donc c'est un livre enrichi qui garde ses caractéristiques de support papier, l'odeur, le toucher, le geste de tourner la page. Le livre augmenté, c'est autre chose, hein, c'est quand on peut faire des jeux, des games, etc. Le livre papier permet de garder une visibilité commerciale. Le livre offre simplement de nouvelles propriétés. Le stockage sur un médium unique de documents hors texte, accessible par connexion. Cette forme résiste au paradigme que Jérémy Rifkin nomme l'âge de l'accès, où la notion d'accessibilité des biens et services prend le pas sur la propriété. A contrario, le livre reste un objet physique non dématérialisé, dont il existe plusieurs exemplaires qu'on peut posséder, dont on peut faire bibliothèque, collection. Et les éditeurs Invenit ont vraiment cette stratégie de la collection, puisqu'ils éditent souvent des coffrets après. Les éléments structurels du livre ne changent pas, s'y ajoutent des options facultatives dans une logique de bonus, l'un centré sur l'auteur, l'autre sur l'objet, aucun sur le musée. Sinon le paratexte en ouverture rédigé par le chargé de collection ou d'inventaire. Avec cette série, Invenit crée une interaction augmentée à condition d'être équipé d'un smartphone, c'est vrai. Les objets mémoire vitrinifiés sont passeurs de mémoire, en somme plus personnels que collectifs, puisque Philippe Forest est attaché à cet objet fossile et en a fait une histoire. Le lecteur peut lire sans que l'image ne soit plus qu'un paratexte de couverture, deuxième de couverture, voilà, de jaquette. Un autre régime du visible opère, celui qui confronte à une prothèse technique. Sommes-nous alors dans une iconologie de l'intervalle, selon l'expression d'Abby Warburg, alors que le médium diffère entre la reproduction d'un tirage imprimé et un simple QR code qui délivre une image virtuelle à manipuler. L'intervalle se situerait alors entre ma lecture et le téléchargement, en ce qu'il est d'usage d'appeler la réalité augmentée, qui pourrait se révéler être de la fiction augmentée. Enfin, le dernier ouvrage que j'aborde, D'azur et d'acier, de Lucien Suel, est un récit aux éditions de la Contre-Allée qui offre un chemin buissonnier hors de la liseuse pour inviter le lecteur à se rendre sur les lieux du récit. L'écriture est locomotrice, mobilitaire, sans visée ludique ou pédagogique. Le livre enrichi d'Invenit ou augmenté de la Contre-Allée ajoute à la spatialité manifeste une temporalité forte et même thématisée dans le motif de la trace. « The mind is inherently embodied », Antonio Damasio, le lecteur-visiteur devenu marcheur. Tout comme nombre de parcours muséographiques, lire est une activité souvent régie par une progression linéaire. Ce parcours peut engager le corps. Tandis que le livre d'Invenit inscrit dans un espace virtuel, c'est un petit peu l'objet en lévitation qui n'est pas ancré dans le décor, il n'y a rien qui fait allusion au musée dans la façon de manipuler l'objet. Celui pensé avec les éditions de la Contre-Allée est ancré dans un espace où le corps du lecteur est en mouvement, où joue à plein la proprioception, c'est-à-dire la perception propre de son mouvement, l'enregistrement de signes internes envoyés par le corps, acceptés comme polysensoriels. Sur son smartphone, il peut télécharger l'application, ce que vous voyez là. Les murs ont des voix. Et à ce moment-là, il part pour une promenade littéraire géolocalisée autour de la friche de l'ancienne usine de Fives, donc une usine près de Lille. Avec des murs en des voies, le lecteur visiteur géolocalisé active des bulles sur son écran qui indiquent sur le plan du quartier les lieux où le guide virtuel va être activé. Chaque bulle est un extrait lu d'Azur et d'acier de Lucien Suel. La déambulation sonore avec bruit d'usine fait saisir le passage de la cité ouvrière de 1858 à sa fermeture dans les années 90. Je suis vraiment dans la nécrologie. Hein, c'est... Mais bon. Alors, mais non, puis vous verrez à la fin, ça... il y a une note quand même très positive. Je lis un extrait de Lucien Suel, un extrait très court. Ces briques qui ont entendu le vacarme de la fabrique, la cadence des machines, le potin des locomotives. L'homme a été évacué, l'ouvrier fondu dans un plan social. médecin légiste à l'ère de la mondialisation de l'économie et du bouleversement brutal des cultures solidaires. Alors, au-delà du mur, un cimetière de 17 hectares, la visite littéraire autour de l'ex-usine se fait impérativement à pied en 1h30. L'application s'est enrichie donc d'un site que vous pouvez consulter, qui rassemble des photos d'archives, des vidéos, des historiques compilés par l'association Mémoire du Travail. Inventaire pour la fermeture d'usine, mutations urbaines sont des thèmes voisins à ceux de la nouvelle d'Echenoz, enfin du récit, pardon, de Jean Echenoz. Les noms des rues fossiles, c'est une expression dans le livre de Lucien Suel, ne diront plus rien à personne. Alors par là, il veut dire, parce que je lui ai posé la question, que beaucoup de noms de rues ont une signification qui est oubliée, qu'il faut réexpliquer aujourd'hui. Quand le lecteur lit la nécessité de mettre tes pas dans les pas des ouvriers, la mobilité contraste d'autant plus avec la mise à l'arrêt de l'usine. Donc une autre citation de Lucien Suel, créer en avançant. La méthode commence par un relevé documentaire de l'écrivain en immersion dans le quartier. Le dispositif multimédia rappelle la géolocalisation. Le lecteur devient un visiteur. Ainsi, les pratiques patrimoniales interactives influent sur les usages de ce récit bref à contrainte. Parce que ça a été fait après. C'est d'abord le texte de Lucien Suel, puis l'application, puis les passages, on peut dire en improvisation, qu'il va continuer de faire. Mais tout au long du processus de résidence, il allait aussi chez les habitants pour commencer à partager ce qu'il écrivait. Donc je disais que le lecteur devient visiteur et que les pratiques patrimoniales interactives influent sur les usages de ce récit bref à contrainte. Alors à contrainte, car Lucien Suel écrit avec deux contraintes. La première, celle du vers justifié, donné par un nombre de signes sur une ligne dans une police précise, qui est la police Mignon, à espace fixe. Et la seconde contrainte, c'est celle de la brique. Les gens du Nord voient très bien que la brique fait partie d'une identité patrimoniale. Donc celle de la brique qui, transposée au livre, le régit par blocs de texte homothétiques. Et on les voit en majuscules, on les repère bien, ces blocs de texte. Le livre se construit comme l'usine, brique par brique. Et voyage ainsi, brique par brique, puisque le texte entendu n'est pas la simple transposition du livre. Quand vous êtes sur le site, et puis il y a aussi un enregistrement sonore, il y a une sélection des textes de Lucien. Donc, pas simple transposition du livre, et les spectacles improvisés ou même le récital qu'il a fait avec Laure Chailloux sont des sélections à partir de mots-clés pour convoquer telle ou telle brique, dont l'écrivain a mesuré précisément le temps. Donc là, j'ai vu dans son livre, c'est bien écrit, à côté, 32 secondes, et le plus long, c'est 2 minutes 40. Le livre s'offre en effet comme un assemblage de fragments, texte en majuscule pour les passages plus sonores, extrait en italique du journal tenu sur place lors de la résidence de 3 mois, et texte déjà publié dans « À chacun sa place », livre paru précédemment sur FIV, mais aussi des bribes de propos rapportés avec indications, phrases prononcées, manière de poésie ready-made, quand d'autres passages épuisent le réel à la manière d'une contrainte oulipienne, par exemple relever toutes les enseignes commerciales lues dans le quartier. Dans son esprit, le ready-made recouvre un enjeu politique. Il rappelle le principe de coopérative. Le titre a beau être une paraphrase d'un blason héraldique qui magnifie le lieu, d'azur et d'acier, il récit s'écrit au cut-up façon rock avec une base de 3, énergie, matière, humain, et une prédilection pour un diagnostic marchand. C'est en marchant qu'on découvre la vie du quartier. L'expérience de médiation proposée par la Contre-Allée produit une action dispositive, selon le concept de Louise Merzeau. Alors, ces dispositifs transmédia engagent une relation mesurée, comme suit, je vais montrer, que je récapitule dans ce tableau. Bon, je ne vais pas vous l'asséner, mais vous voyez bien que c'est quand même c'est pour redonner la singularité des deux collections. Récits d'objets, donc chez Imbénite, sont des expériences perceptives où le lecteur reste extérieur, ne va pas forcément au musée de Lyon. Il est au spectacle devant cette molaire. Et les murs ont des voix, c'est une expérience plus immersive. Voilà. Donc il y a d'autres éléments qui permettent de bien marquer qu'il y a une différence. Je ne voudrais pas lisser et les mettre exactement. Il y a une comparaison à faire. Voilà. Nos deux cas de narrative mobile n'ont rien de la gamification, vous savez, quand il y a un élément à trouver, genre chasse au trésor, mais bien du play, sans rien à gagner. Le dispositif Divenit n'a pas prétention à singer une continuité entre réel et virtuel. La littérature, par le récit bref, entre en jeu dans l'esthétique du mobilisable, donc c'est un concept de Boissier. Le lecteur est couplé à son environnement par une interface, dans le cas du dispositif des murs on des voix, qui en font un lecteur connecté, équipé. Et ce téléphone est complètement inclus à son mode d'appartenance et d'ancrage dans un lieu. Alors, à l'issue de ce parcours, parce que là, ça y est, j'ai fait le tour des six récits, j'ai eu l'expérience d'un texte dans lequel on entre et dont on sort quand on visite un espace de promenade, une exposition, un musée, une ville, comme le dit Borges. Dans mon corpus, rien d'aussi conceptuel que les méthodes de Sophie Kahl, avec ses messages d'amour de 200 signes maximum affichés à la station de métro Jeanne d'Arc, qui efface des postages les 150 premiers. Les petites annonces, format bref par excellence, relèvent d'une toute autre tendance à l'interactif et au collaboratif, et on pourrait réellement en discuter le caractère littéraire. Mes exemples s'en sont tenus à la collaboration par manipulation ou déambulation. Le nomadisme et la portabilité du récit bref l'inscrivent ici dans un répertoire de figures du mouvement entre effet de la proprioception, image en mouvement de façon virtuelle chez Invenit, mouvement de porte de métro comme les rideaux d'une scène chez Sebar. Alors, récit bref SDF sans domiciliation figée qui peut pourtant se loger dans un roman, c'est le cas chez Forest, se vivre dans un dispositif multimédia, s'adapter à des rythmes contemporains liés au transitoire. Sur le plan anthropologique, la littérature du format court ne se tient pas à l'écart d'une société qui fait coexister des rythmes. Le téléchargement ne fait pas de l'hypertexte ou des combinatoires le fantasme d'un livre infini, comme Borges l'exprimait dans le livre de Sable. Il stimule des combinatoires d'usages qui inscrivent le récit bref dans un espace iconique et sémiotique. Alors, tous les récits que j'ai évoqués ont un rapport avec une autre thématique, plus ou moins déclarée, la dimension mémorielle de l'écrit, prélèvement de traces en tout genre, mémoire, et d'un peu de passé qui ne passe pas. Lucien Suel, Écho à l'international, extrait d'Azur et d'Acier. Et je renvoie à l'exergue de Philippe Forest pour L'enfant fossile. Walter Benjamin sur le concept d'histoire. Le passé réclame une rédemption dont peut-être une toute infime partie se trouve placée en notre pouvoir. Non pour retrouver, mais pour qu'advienne. Je crois que c'est toute l'habileté des écrivains cités qui se joue des frontières déterminées par le nombre de pages, le genre, essai, poésie, pour affirmer le potentiel de déplacement de l'art du bref. Certes, l'obsession de la trace ou la quête d'une fixation, quoique bousculée par le passager, sont un lieu commun de la littérature, mais la manière de chasser et de capturer des noyaux, qu'ils soient fossiles, briques, traces ou tags, est opératrice de mobilité activée par de nouveaux dispositifs de liaison ou de connexion, en phase avec la médiation muséographique actuelle. Bref, pour prendre un peu de recul, je choisis de parler de mesure et de réserve, parfois de coupe, signe du négatif au travail. Le choix du cours est celui de la mesure d'une onde. On a bien parlé de l'ecclésiosismographe. Et puis, le chat de Schrödinger de Philippe Forest nous parle bien d'un physicien de l'onde. La mesure d'une onde, soit d'une structure de propagation, une résonance magnétique. Peut-être pas de chute de tension ou d'aimant, comme nous en parlait Michel Vienne hier matin. Plutôt comme un petit caillou, fossile ou brique, jeté dans l'eau pour y faire ses ronds. Trois allées au Bourget qui élargissent le périmètre du visible, parce qu'à chaque allée, il voit des nouvelles choses qu'il n'avait pas vues. Trois fossiles chez Forest, au musée, dans sa propre enfance et dans le souvenir avec sa fille. Pourquoi faire ? Pour dire ce qui circule, ce qui passe, malgré et grâce aux destructions, aux déconstructions. Si au cinéma, on parle d'un court, moyen, long métrage, peut-être peut-on parler en littérature de format court du sens de la mesure, avec le double sens de ce mot. Pour prendre la mesure du contemporain, lequel ? Avec Leïla Sebar, le grand récit en lambeaux de l'immigration, force d'un sous-texte iceberg. Avec Philippe Forest, la force du précipité au sens chimique, l'événement non d'une histoire, mais l'événement d'une vie, la déchirure-blessure, peut-être cette quintessence dont on parlait hier. Bien sûr, les six auteurs offrent matière et écriture à ne pas lisser, fondre dans une fausse unité. Comme l'écrit le Clésio, c'est la dernière phrase d'à peu près apologue, chacun sa vie, chacun son intime. Alors, raconter une histoire, ce n'est pas de la tarte. J'ai pas fini, attendez. Je suis en train de m'embrouiller dans mes textes. J'arrive. Je l'ai lu dans le désordre, c'est pas grave. Bon. Une dimension de ces récits hybrides ciselés à contraintes variables. Donc, vous avez compris, c'était la page et demie au nombre de signes par ligne pour certains, se construit dans un rapport à l'absence. Alors, il y a la trace chez Ernos, Bar et Schnoz. Il y a le revêt d'inventaire inachevé chez le Clésio Suel. Il y a l'empreinte chez Forest. Ce travail de négatif fait que le récit échappe aux complétudes suffisantes. Ce faisant, le récit rend le négatif efficient, il mobilise des icônes pour en déplacer la puissance imageante. Ainsi, des images parvenues en lambeaux, bandelettes de pharaon, un test que l'écrivain en réinvente les combinaisons d'usage au service d'un rapport attentif à l'extrême contemporain comme réserve mémorielle. Alors, pour les deux derniers récits que j'ai évoqués, le format court facilite l'invention de nouveaux dispositifs multimédia, mais aussi des nouvelles contraintes. Des enquêtes dans les musées d'art estiment la durée d'un visiteur devant une toile en secondes. Et les éducateurs estiment l'attention suspendue, passée 40 minutes, que j'ai dépassée. Aussi est-il inutile d'en rajouter, l'auteur d'un récit de mesure modeste, c'est toujours la puissance de la mémoire, tout comme celle de la réserve, qui l'incite à toucher juste. Alors que vivent des récits brefs comme registre de rien, de traces, en somme, ce qu'il nous reste, un peu de ce passé présent, infime.